Vous êtes sur RTL. Eric. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vous espère au mieux en ce mercredi. Heureuse ainsi que toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre de vous retrouver pour une heure de réflexion et de partage sur l'antenne d'RTL et sur l'application RTL. Comme chaque jour, je vous invite à me rejoindre au 3210 ou sur nos réseaux sociaux si vous préférez nous écrire plutôt que de nous parler pour nous éclairer de vos points de vue, de vos expériences. Aujourd'hui, je vous le disais, on s'interroge sur un grand vertige. On appelle cela le syndrome du nid vide ou comment, pour certains parents, la vie s'arrête quand les oisillons s'envolent, quand les enfants se tournent vers leur avenir et nous font nous retourner sur un passé passé trop vite. Et pourtant, n'est-ce pas là notre engagement de départ, aider nos enfants à nous quitter? Pourquoi ces moments qui s'inscrivent dans l'ordre des choses paraissent-ils extraordinairement douloureux? À quoi renonçons-nous quand les enfants partent? On va accueillir dans un instant Fernando, mais je vous le disais, Philippe Besson est mon invité. Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Je suis ravi d'être là avec vous, ça me fait très très plaisir.
Voilà un sujet, le dernier enfant que vous n'aviez pas encore abordé dans un roman. C'est un livre, moi, qui m'a touchée, comme tous les précédents, qui raconte, en fait, je dirais presque quelques heures dans la vie d'une femme.
Oui, une femme qui voit partir, effectivement, son dernier fils. Ouais. Alors, c'est très inspiré de mon histoire personnelle, ouais. Puisqu'un jour, je suis cet enfant qui est parti.
Le petit dernier ?
J'ai le petit dernier, absolument, et à 18 ans, comme dans le livre. Et j'ai appris après coup que ma mère, dans la voiture du retour, avait pleuré. C'est-à-dire, une fois qu'elle m'avait déposé dans la chambre de bonne où j'allais passer les 3 ans qui allaient suivre en Normandie, eh bien, elle a pleuré et mon père me l'a appris en gaffant. Ouais. J'ai compris surtout qu'elle avait plongé dans une forme de langueur et de grande mélancolie pendant des mois, ce qui m'avait énormément surpris parce que c'était une femme jeune, dans la vie active, voilà.
Accomplie.
Donc, je me disais, ça va aller très bien pour elle. Au contraire, c'est une deuxième vie qui commence. Et en fait, elle était embarquée dans une forme de sentiment de perte, d'abandon, d'inutilité mélangée. Et je me suis souvenu de ça. Un jour, on a eu une conversation, elle et moi, à ce sujet assez émouvante, voilà. Et du coup, je me suis dit, un jour, je raconterai cette histoire. Alors, à ma façon, c'est-à-dire, je suis romancier, donc j'ai voulu...
Votre maman est devenue Anne-Marie,
voilà,
ce n'est peut-être pas la même vie non plus.
Et puis, j'ai voulu le ramasser sur une journée, parce que j'aimais bien l'idée que, comme vous le disiez, c'est une sorte de précipité. Donc, tout se passe sur ce jour-là, où à un moment, l'autre s'en va, et quand on rentre à la maison, ouais. Il n'est plus là.
Voilà, et quelques heures, effectivement, pendant lesquelles notre vie bascule. On ouais. a beau s'y préparer, intellectuellement, philosophiquement... on n'est pas toujours préparé à ce que l'on ressent.
Mais c'est ça qui est fou, parce qu'au fond, c'est quand même l'événement le plus prévisible qui soit. On sait que les enfants un jour finiront par partir. Et puis voilà, être parent, c'est préparer ses enfants à un jour à pouvoir s'envoler.
Exactement.
Et à voler de leurs propres ailes. Bon, donc au fond, quand ils s'en vont, on a accompli son propre devoir. Et ben pourtant, bien que cet événement soit prévisible et attendu et souhaité d'une certaine manière, surtout quand il se passe bien, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation un peu bizarre, désemparée, quoi, et sans repère. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi raconter.
Alors, il en est un qui vous écoute parce qu'on comprend aussi que le syndrome du nid vide ne concerne pas que les femmes, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Ce n'est pas qu'une question de couver nos œufs en tant que femelle, mais les papas sont aussi concernés. Fernando, j'imagine que vous vous retrouvez dans les mots de Philippe Besson. Soyez le bienvenu sur RTL.
Oui, bonjour.
Bonjour Fernando, vous avez 61 ans, vous vivez à côté de Bordeaux, vous êtes artiste peintre. Quel
oui,
joli
oui.
métier. Alors,
oui.
ces enfants, donc Emma, 22 ans, Elisa, 26, Robin, 30, ça a été plus difficile pour Emma que pour les deux précédents.
Oui.
Racontez-moi.
Oui et
un
non,
peu.
Puisque c'est elle qui est restée ici. Donc,
oui, qui est restée, qui n'est pas loin de vous. Quoi.
Voilà. Et puis en plus, elle vient d'avoir un bébé. Donc. Ça fait que je garde le bébé une ou deux fois par semaine.
Ça, c'est un lien, ça.
Ça me permet, voilà.
Alors racontez-moi ce qui fait qu'effectivement vous comprenez ce que nous explique Philippe Besson aujourd'hui. C'est que vous, le départ de vos enfants, vous ont plongé dans une forme de solitude et un grand vide, une grande vacuité.
Oui, parce que la maison est très, très grande.
Ouais.
Et puis, tout le monde est parti, peu à peu, mais tout le monde est parti. Même ma mère vient de décéder. Ma femme, on s'est séparés. Donc, je me retrouve dans cette maison tout seul.
D'accord, ok.
Et donc, c'est vrai que les 3 enfants, c'était une vie trépidante, même. Et
alors,
d'un seul coup,
ouais. Mais alors dites-moi, et des enfants, ça fait du bruit. Ça nous occupe l'esprit. Ça nous préoccupe, je dirais d'ailleurs. Hein. Ça nous envahit, ça nous colonise des enfants, ça nous épuise. Ça met du bordel partout. Et pourtant, effectivement, quand ils partent, ils laissent une immense trace.
Ah bah oui. Oui, c'est terrible même. Parce que quand ils ont déménagé, ils ont emmené leurs meubles de leur chambre.
Ouais.
Et donc, quand je passe pour aller de mon atelier à la maison, je passe par le couloir où il y avait leur chambre. Et ça résonne, quoi.
Alors, c'est fou, ça. Qu'est-ce qui résonne derrière, derrière le parce qu'il y a quelque chose qui résonne derrière tout ça.
Bah, disons que pour moi, ça a été quelque chose de terrible. Parce qu'en plus, le fait de se retrouver tout seul, c'était une espèce d'étape. Oui. Je me retrouve, d'un seul coup face à moi-même et puis au fait que je suis devenu vieux.
Ah, alors racontez-moi ça. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bah, disons qu'à partir de là, c'est une autre vie qui commence. Et puis, à 62 ans, la vie n'est pas non plus devant moi. Et donc, pour moi, c'était le passage à... Tant qu'ils étaient là, avec leur dynamisme, leur joie, leur bordel, comme vous dites, hein. Et bien là, d'un seul coup, je me retrouve presque sans rien.
On va se retrouver dans un instant, Fernando, parce qu'effectivement, on se retrouve sans eux, mais on se retrouve avec beaucoup d'autres choses. Mais lorsque l'on vous écoute, on a le sentiment que ça n'est pas le cas. On va poursuivre notre conversation, si vous le voulez bien, et puis revenir sur cette idée, on ne sert plus à rien. Comme si, effectivement, à un moment donné, notre existence passait systématiquement à travers de nos enfants, c'est intéressant. On se retrouve dans un instant, Fernando, sur RTL, ok?
D'accord.
À tout de suite.
Ok.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Mes garçons sont toute ma vie, m'écrit Mireille. Mon grand travaille depuis septembre dernier, il a donc emménagé dans son appartement. Je retardais le moment d'aller voir son nouveau nid. Et puis il y a 3 semaines, je n'ai pas pu éviter cette visite. Et depuis, je suis très mal. Mon fils est parti de la maison. Tiens, c'est fou parce que ça pourrait être dans votre livre, Philippe Besson.
Oui, Anne-Marie, l'héroïne, aurait pu dire ça.
De la maison, voilà.
Oui, parce
c'est
qu'il
une
faut
sentence.
Mais il faut le verbaliser. Effectivement, c'est comme une sentence. C'est comme un truc d'un procès. On a perdu, quoi. C'est terrible parce qu'au fond, c'est l'idée, vous le disiez tout à l'heure, que la vie bascule, qu'elle change du tout au tout. C'est-à-dire qu'on a consacré son temps, son énergie, son esprit à ses enfants. On a voulu que tout aille bien. De temps en temps, ils nous ont énervés. Souvent, ils nous ont énervés, etc.
On a presque souhaité leur départ,
oui, c'est ça,
par moment, d'ailleurs.
Et puis tout d'un coup, quand ils ne sont plus là, et c'est ce que disait Fernando tout à l'heure, c'est très concret. Ouais. Une maison vide, un appartement vide, un appartement dans le silence, un appartement où, quand vous entrez dans la chambre, il n'y a plus les posters, il n'y a plus que la trace des posters. Ou alors, s'il y a les posters, c'est les stigmates d'une présence, mais donc du coup ça rend l'absence encore plus criante et donc le manque encore plus prégnant. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on est confronté à cette gamme de sentiments très troublante.
On va en parler avec Nicole Prieur qu'on accueille dans un instant parce que vous en parlez comme d'une mort en fait, hein, quelque part.
Oui,
hein. Bah oui, c'est ça. Non mais vous me parlez d'une pièce vide. Moi je pense qu'il faut la transformer en dressing.
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose d'irrévocable. Je veux dire par là que rien ne sera plus comme avant. C'est terminé. Et je pense que c'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a cette prise de conscience que quoi qu'il arrive, même si on continuera évidemment à avoir les enfants, même si ils nous ramèneront le linge le week-end, etc. Il y a pas de souci. Et même s'ils nous emmerderont peut-être autant qu'avant, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que rien ne sera plus comme avant. Donc ce côté irréversible, irrévocable, ça c'est terrible.
Bonjour Nicole Prieur.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et psychothérapeute. Nicole Prieur, c'est vrai, c'est irrévocable.
C'est
irréversible. Ça fait partie de ce peu de moments, hein, je dirais, dans la vie, hein, où l'on ne peut pas du tout revenir en arrière et où on sait qu'on abandonne quelque chose. Fernando est toujours en ligne avec nous. Nicole Prieur, qu'est-ce qu'on abandonne quand nos enfants nous abandonnent?
Eh bien oui, c'est ça.
Parce que c'est vraiment ça, en fait. Ouais.
On est abandonné.
C'est
et
ça.
C'est vrai, il y a un avant et il y a un après, j'ai envie de dire. Là, et c'est souvent un moment... Alors, c'est vécu avec plus ou moins d'intensité douloureuse, etc. Mais de toutes les manières, c'est d'un moment les plus bouleversants.
Oui.
Parce qu'on va voir pourquoi, pour plein de raisons. Mmh. Mais peut-être même plus bouleversant qu'au moment de la naissance. À la naissance, on gagne quelque chose, on ne sait pas ce qu'on gagne, mais on gagne. Tandis que là, effectivement, on est dans une perte Et quand j'entends Philippe, quand j'entends effectivement même mes patients, enfin, je veux dire, ou même quand je l'ai vécu moi-même, quand j'entends Fernando, j'ai envie de dire, ce que l'on perd avant tout, c'est une perte de sens. On ne sait plus finalement à quoi va servir notre vie. Hein, et je pense que toute la reconstruction, parce qu'il y a reconstruction, il y a quelque chose à faire au niveau de la reconstruction, parce que le vide, le nid vide, c'est aussi la vacuité des contraintes. Il n'y a plus ou presque plus de contraintes. Et il va falloir apprendre à faire, non pas seulement dans la solitude, il ne faut pas prendre la solitude seulement comme un face-à-face avec soi-même, mais aussi la solitude, il va falloir apprendre à faire par soi et pour soi. Et finalement, c'est peut-être un temps où on va apprendre aussi à être un peu égoïste. Et ce n'est pas si mal que ça, finalement.
Mais la tâche est immense, parce que vous avez raison. Vous avez raison. À un moment donné, cette vacuité, il faut remplir ce vide. Et on n'a plus le mode d'emploi, tellement on s'est tourné vers les autres et vers nos enfants. Et sans compter cette idée aussi, Nicole Prieur, de la descendance. Et donc, à un moment donné, Fernando, ça y est, vous êtes grand-père. Donc, ça y est, ça a repris tout son sens, cette histoire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et forcément, mon petit-fils, il est extraordinaire.
je suis sûre que c'est le plus beau petit-fils de France.
Voilà,
c'est le plus sage, il fait des décennies, il est parfait.
C'est un médicament.
C'est un médicament parce qu'on a le sentiment qu'en fait, voilà, à un moment donné, cet enfant, alors c'est intéressant, on y reviendra, mais on parle beaucoup de rôle et d'utilité là-dedans. Hein, parce que vous nous expliquez, Fernando, que vous avez eu le sentiment de ne plus avoir d'utilité quand vos enfants sont partis, donc la perte de sens. Votre petit-fils a son utilité aujourd'hui, c'est un médicament pour vos maux, pour vos douleurs. Mais vous, Fernando, votre vie à vous. Là, on ne parle plus de vos petits-enfants, on ne parle plus de vos enfants.
Oui, mais bon. Moi, je suis assez actif, sauf que là, avec l'histoire du Covid, toutes les expositions ont été...
Alors, je comprends ça.
Voilà, et donc ça a rajouté un peu. Mais là, bon, les expositions reprennent, je suis en exposition en ce moment.
Ah bah génial, dites-nous où, comme ça, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de découvrir votre travail.
À Bourg-sur-Gironde,
d'accord.
Dans le nord de Bordeaux.
Ok.
Et donc, je suis dans une galerie qui s'appelle La Croix David.
Très bien.
Et donc, voilà, je suis là en résidence d'artiste jusqu'à au moins le mois prochain.
Ah bah, c'est formidable. Donc, ce que vous nous expliquez, Fernando, aussi, c'est que tout est arrivé un peu en même temps et dans une période où le monde était à l'arrêt, ce qui, évidemment, ne doit pas aider.
Non, bien sûr. Ouais.
Vous allez mieux aujourd'hui, Fernando
Oui. Enfin, disons que j'ai jamais non plus été en dépression, parce que mes enfants sont présents, ils m'appellent souvent, etc., etc. Donc ça aussi, quoi. J'ai pas. Et puis j'ai quand même pas mal d'amis. Je joue dans une troupe de théâtre, donc aussi.
Vous êtes sur la bonne voie là.
Ouais, les comédiens ont été très présents aussi, surtout au décès de ma mère.
Ben ça, j'imagine. Parce qu'en fait, on a besoin d'être entouré dans ces moments-là.
Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas, Fernando, d'avoir témoigné sur cette antenne. Il s'appelle comment, votre petit-fils? Quel est le plus beau petit-fils de France?
C'est Juanine.
Fernando, Juanine, tout ça.
Parce que bon, Fernando, donc vous vous doutez que je suis espagnol.
Pas du tout. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, Fernando. Bon, je vous remercie en tout cas d'avoir témoigné. On vous souhaite le meilleur. Nicole Prieur, on se retrouve dans un instant avec Philippe Besson sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Voilà. Merci, au revoir.
Au revoir.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur
RTL. Et aujourd'hui, à l'instar de Fernando, parce que Fernando, je n'ai pas pu le lui dire, tous les auditeurs qui passent à l'antenne vont remporter 4 places de cinéma. Si vous nous écoutez toujours, Fernando, vous allez pouvoir emmener vos 3 enfants. C'est génial. 4 places de cinéma pour aller voir Wendy. C'est une vermeilleuse adaptation des aventures de Peter Pan, réalisée par Ben Zetlin, qui sort aujourd'hui en salle. C'est un film en partenariat avec RTL. Fernando, les places iront jusqu'à vous. Le syndrome du nid vide. Isabelle nous écrit: j'ai ressenti un très grand vide quand mes enfants sont partis de la maison, si grand que s'en est suivi un divorce, une démission de mon travail et une réorientation professionnelle, comme si cette première partie de vie se finissait. Ce fut extrêmement douloureux, cela l'est encore aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut jamais s'oublier, toujours prendre du temps pour vivre, non pas pour ses enfants, mais avec ses enfants. Ça va loin, hein, pour Anne-Marie dans votre livre, Philippe Besson.
Elle se retrouverait dans ce témoignage d'ailleurs, parce que au fond, Anne-Marie, elle a mis tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle s'est oubliée elle-même. Elle a oublié d'être une femme. Elle a oublié d'être une épouse. Elle est devenue seulement une mère. Elle s'y est consacrée entièrement. En plus, c'est une femme modeste. Hein. Elle a, voilà, il y a pas de plan B, comme je dis. Il y a pas de villa de bord de mer. Il y a pas de situation où on peut s'évader. Il y a des liens sociaux qui sont assez faibles, très ténus. Donc bon. Et tout d'un coup, quand l'enfant s'en va, ben, elle est confrontée justement à cette vacuité et à un sentiment d'inutilité. C'est-à-dire à quoi je sers maintenant, à quoi je vais servir. Et qui s'adjoint chez elle aussi un sentiment de culpabilité. Alors qu'on pourrait se dire, ça ramène à ce qu'on disait au début, elle pourrait avoir le sentiment du devoir accompli, elle a fait le job quand même. Ouais. Et non, en fait, elle se dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que mon fils va être protégé contre l'hostilité du monde, contre ce qu'il attend? Parce que là, j'étais là, à ses côtés, je pouvais moi le protéger, et puis demain, je ne pourrais plus le protéger. Et donc, elle est traversée par tout ça, et elle ne va pas bien. Non, elle ne va pas bien du tout, Anne-Marie. Ouais.
Non, c'est un peu compliqué pour Anne-Marie. Mais
oui, c'est un peu compliqué. Mais après, elle s'en remet, parce que justement, elle prend conscience. Comme tout le monde.
Je pense ça que, qui est dingue.
Après, il y a une question de temps, il y a une question de résilience, etc. Mais comme tout le monde, parce qu'on surmonte, on finit par surmonter ça.
On s'en remettrait jamais. Enfin, et il y aurait beaucoup plus de dégâts qu'il n'y en a. C'est intéressant aussi, Nicole Prieur, hein, vous qui êtes avec nous, le témoignage d'Isabelle. Alors elle, la totale, c'est-à-dire effectivement le départ des enfants. Ben, qu'est-ce qui se passe quand nos enfants partent? On se retrouve en tête à tête.
On se retrouve, alors si l'on est en couple, effectivement, on se retrouve face à face dans le couple, et ça, il faut réinventer le couple. On est oublié d'être à deux. Donc c'est vraiment là aussi, on a oublié d'être à deux, et puis on a à dépasser toutes nos différences sur l'éducation des enfants, etc. Donc là, il y a quelque chose à réorganiser, à repenser aussi. C'est un vrai job, c'est vrai que c'est un vrai job. Et si on est seul, célibataire, effectivement...
Ben, on se retrouve tout seul.
Ben, on se retrouve tout seul, mais il ne faut pas oublier, et je crois qu'on a une représentation du vide un peu négative, le vide, c'est plein de choses.
Ah, mais c'est un territoire à conquérir, le vide.
C'est plein de promesses, et je crois que il faut vraiment réussir, c'est pas toujours facile, hein, réussir à vivre ce passage, c'est un passage, hein, ça c'est clair, c'est un passage, mais il faut réussir à voir effectivement qu'est-ce qui va nous faire du bien pour les années à venir. Je pense qu'effectivement, il y a un avenir à imaginer. Il faut l'imaginer, il faut le penser, il faut s'en donner les moyens, pas financiers hein, seulement, mais des moyens effectivement psychiques. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, la solitude, c'est quelque chose qu'il faut envisager, je veux dire, ou prévenir très, très, très longtemps en amont, quoi, finalement.
Mais il y a quelque chose en fait d'assez incroyable effectivement, c'est que quand je vous disais en fait le vide est un territoire à conquérir, c'est qu'en fait il a tellement été rempli finalement par les enfants qu'il devient vertigineux pour nous, qu'on ne sait plus quoi en faire. Alors il y a une comparaison qui ne sera peut-être pas la bonne, mais quand on s'est retrouvé confiné, on était face à un temps. Alors le temps de l'écrivain, c'est autre chose, Philippe Besson, hein, parce qu'on en a besoin de ce temps, de cette retraite et tout. Mais il y a plein de gens qui le disent. J'avais tout à coup un temps, j'avais un espace de vie, et je suffoquais dans un espace de vie trop grand.
Exactement. C'est vraiment une question d'apprentissage aussi de la liberté. Et quand vous dites qu'on n'est pas préparé, c'est ça. On a devant soi plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Hein. Surtout, on est quand même à un siècle qui a tous ces problèmes évidents, mais en même temps qui offre d'énormes possibilités. Donc, on est devant, comme pendant le Covid, effectivement, pendant le confinement, on avait plein de possibilités, regarder des podcasts, lire et s'amuser à écrire, etc. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je me projette? Je pense que ça sollicite aussi, pas seulement une résilience, mais aussi une capacité d'imaginer quelle va être ma vie de demain. Et je crois que prendre en compte, en considération, des désirs, aller peut-être chercher des désirs au plus profond de soi, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain? Qu'est-ce que j'ai envie de... Vers quoi j'ai envie de mener ma vie? Comment... On prend quelque chose en main. Hein. Il y a vraiment quelque chose à prendre en main.
De toute façon, on n'a pas d'autre choix, parce que sinon, on sombre. Hein, donc voilà, ça s'appelle le sentiment de survie. Il y a un autre truc aussi, Philippe Besson, et on le voit dans votre livre, c'est que nos enfants, et on l'abordera aussi dans la deuxième demi-heure, parce qu'on va passer aux infos, donc on va se prendre encore une petite minute pour nous, mais nos enfants, quand ils se barrent, ils se barrent.
Ils sont contents.
C'est que quelque part, bien souvent, et c'est le cas de Théo dans votre livre, c'est-à-dire qu'il part, il tourne le dos quelque part à ses parents, ça fait partie partie des choses nécessaires, des douleurs nécessaires, et forcément le lien ne sera plus le même. Qu'on doit renoncer aussi.
Il s'affranchit. Et lui, il est très content de partir d'une certaine manière, ce qui rend évidemment folle de rage sa mère, parce qu'elle se dit il va aller vivre dans un petit studio de 12 mètres carrés, je sais pas quoi, et il va être obligé de faire des petits boulots pour se le payer, alors qu'il pourrait rester dans une grande maison avec sa mère. Et non, il part parce qu'il a envie de partir et de vivre autre chose et de rencontrer d'autres gens que ses propres parents ou les amis de ses propres parents, c'est-à-dire de voir d'autres visages. Et c'est ça aussi que prennent les parents dans la figure.
C'est qu'effectivement,
ils se rendent compte que ce qu'ils ont proposé à leurs enfants leur suffit plus ou les intéresse plus et normal. Qu'ils ont envie d'autre chose, ce qui est normal, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible, mais sauf qu'au moment où ça arrive aux parents, c'est un petit peu difficile, un petit peu saumâtre.
Parce que ça peut effectivement, c'est le mot, ça peut effectivement passer pour une forme d'ingratitude.
Oui.
C'est ce
oui,
que certains parents très investis dans la
les
vie.
Les parents se disent j'ai tout fait pour mon enfant et voilà qu'il s'en va et voilà qu'il ne me remercie pas, voilà. Et voilà qu'il se rend pas compte de
qu'est-ce
tout ce que j'ai fait
pour mériter ça. Mais exactement.
C'est ça.
Et ce qui est dingue, c'est qu'on l'a entendu de nos propres parents, mais on le dit à nos enfants. C'est aussi. Mais ça, c'est l'éternel recommencement. On se retrouve dans un instant puisque Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio. Ses enfants ne sont pas encore partis, ils sont tout petits, vos enfants, Olivier Bois.
Oui, ils sont 2 et 5 ans.
Bon, comme ça, vous allez nous écouter, on va vous préparer. On se retrouve tout de suite, Nicole Prieur. Place aux infos sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Merci. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
En direct jusqu'à 15h30 avec vous, avec Philippe Besson. Je vous conseille son dernier roman chez Julliard, Le Dernier Enfant. Et puis Nicole Prieur qui est philosophe et psychothérapeute. On retrouve également son livre Avoir confiance en soi aux éditions First. Et c'est vrai que c'est aussi une question de confiance en soi et en l'autre, en nos enfants, lorsqu'ils quittent le nid et que l'on est atteint par le syndrome du nid vide. Ça n'est pas le cas de tout le monde quand même, Nicole Prieur.
Ah non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que quand on a une certaine assise identitaire, quand on a effectivement le sentiment que l'on sait vers quoi on va s'orienter, comment on va remplir cette vie justement, à ce moment-là, c'est vrai qu'on surfe un peu plus facilement quand même sur ce grand bouleversement. Alors. Mais vous avez lancé tout à l'heure le grand mot, je ne sais pas, ingratitude. C'est vrai, on a l'impression que ces enfants qui s'en vont, qui nous quittent, qui sont autonomes, qui n'ont plus besoin de nous, c'est ça qui est terrible. On ne peut pas les protéger, on ne peut plus les protéger de la même manière, mais eux non plus n'ont plus besoin de nous, ils sont déloyaux. Et tant mieux pour eux.
Mais exactement. Alors, ils sont marrants parce qu'ils sont déloyaux, ils sont ingrats, et pourtant, et ça c'est extraordinaire dans votre livre, Philippe Besson, c'est qu'on sent que votre héroïne Anne-Marie se raccroche à des petits trucs pour maintenir le lien, c'est-à-dire que le lien qu'elle a avec son fils Théo, finalement il est matérialisé par des gestes de plier son linge, de laver son linge, de lui filer des poêles, des casseroles et tout pour qu'il s'installe, donc on est dans le matériel, et on est aussi toujours assuré quand nos enfants partent qu'ils reviendront quoi qu'il arrive, quand ils auront besoin de nous pour un truc.
Oui.
Et donc on est dans une sorte d'ambivalence, moi je trouve.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que Anne-Marie, elle se raccroche aux gestes du quotidien, aux gestes ordinaires. Moi je crois beaucoup à ça. C'est une femme qui n'est pas dans la déclamation, la déclaration, l'ostentation. Elle sait pas vraiment dire je t'aime, mais elle a des petits gestes et son fils en retour en a.
Oui, oui.
Vous savez, donner une photo, effectivement donner un vêtement. Bon, et tout ça fait que ça fait vie ensemble. Ou préparer le petit déjeuner, le dernier petit déjeuner. Bon, mais effectivement elle se raccroche à des choses aussi matérielles. C'est-à-dire elle se dit de toute façon le week-end il va revenir. Avec son linge sale, donc je l'aurai encore un peu à moi, et puis je mettrai des canettes de coca dans le frigo, parce que comme je sais que c'est ça qui boit, et donc...
Et on trouvera malgré tout qu'il est ingrat,
mais c'est en même temps la vie qui est encore là, et c'est ce lien qui continue d'exister. Et pour elle, c'est ça qui est important, et je pense pour beaucoup de mères, c'est l'idée que ça perdure malgré la distance, malgré l'éloignement.
Eh bien, Jam qui nous écrit sur Facebook, c'est l'horreur, j'ai continué de cuisiner pour 5 pendant 4 ans. On a une pensée pour Alison qui nous dit, moi je ne préfère même pas y penser, mais deux filles sont encore petits, 6 ans et demi et 2 ans et demi, mais rien que de savoir que mon petit dernier va faire sa rentrée en septembre, j'ai envie de pleurer. Alors, Alison, il va falloir faire la rentrée en septembre à la cool, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué, on tient à vous le dire quand même. Mais ce qu'il y a de dingue dans ce que nous explique Alison aussi, Nicole Prieur, c'est que le temps passe vite.
Oh,
et ça, c'est quand ils partent, on se retourne, c'est ce que nous disait tout à l'heure Fernando, on se sent vieux, je me sens vieux, on se prend un coup sur la cafetière parce qu'en fait, tout ça s'est passé à une vitesse de dingue et on se souvient de leur rentrée en CP.
Et oui, ça passe ultra vite et effectivement, tous ces moments...
Ça nous rappelle.
Ah oui, ils nous ont fait galérer, ils nous ont cassé les pieds pendant des années, mais on n'a pas vu le temps passer. On était effectivement pris dans ce mouvement, on n'a pas vu le temps passer. C'est pour ça que quelque chose de l'ordre du sens de la vie a donné de notre place dans la vie, dans notre propre vie. C'est ça qui est vraiment complètement bousculé au moment où ils partent. Et c'est vrai que ce qui est difficile aussi et qui fait qu'on ne se trouve un petit peu perdu, c'est qu'une fois qu'ils sont chez eux, donc chez eux, ce n'est plus chez nous. Hein. Moi, la première fois que je suis allée chez mon fils, qui est plutôt désordonné, il a fallu que j'enlève mes chaussures pour rentrer chez lui. J'ai vraiment compris que je n'étais pas chez moi. Donc eux, ils sont chez eux, ce ne sont plus les mêmes enfants, ils vont nous surprendre. Donc on perd aussi le rapport que l'on avait avec le petit enfant que l'on croyait avoir. Mmh. Ils ont grandi d'un seul coup.
Exactement.
Hein, et ils sont autres. Quand ils sont chez eux, ils sont complètement autres. On n'a plus les mêmes enfants.
Alors, oui, je voulais rebondir sur la première partie de ce que disait Nicole, c'est-à-dire c'est passé très vite. Je fais dire ça à un mari dans le livre, cette phrase qui pour moi est toute simple et terrible, c'est passé vite quand on y songe. Et au fond, c'est ça, c'est le temps a filé sans qu'elle s'en rende compte. Et pour elle, c'est assez terrible. Et ça pose des questions existentielles au fond. D'abord, est-ce que c'est la fin des jours heureux? C'est-à-dire qu'au fond, on a été heureux, épanoui, quoi qu'on ait dit ou pensé avec ses enfants. Et comme ça se termine, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des jours heureux? Et du coup, comment on se débrouille maintenant avec les regrets, avec ce qu'on n'a pas su faire, avec les choses inabouties, avec ce qu'on croit qu'on a raté, avec ce qu'on n'aura plus le temps de faire, parce que de toute façon maintenant c'est fini, il est passé à autre chose, l'enfant est parti. Oui. Donc comment on se débrouille avec tout ça, avec ces frustrations? C'est ça qui est terrible, c'est des questions existentielles, vraiment.
Ce sont vraiment des questions existentielles et je pense que ça nous interroge aussi dans notre attitude à donner. Je pense qu'on ne donne jamais autant qu'à nos enfants. On a des gestes aussi de tendresse tout à fait particulier avec les enfants. Mmh. On leur caresse les cheveux, etc. Et quand ils partent, en tous les cas, déjà, quand ils grandissent, hein, on perd cette possibilité de gestes de tendresse au quotidien et on ne peut plus donner à d'autres autant que l'on a donné à nos enfants. Alors qu'on sait que donner, ça nous grandit, ça nous restaure, ça nous narcissise, ça nous fait du bien de donner. Hein. Là, on ne donne plus de la même manière.
Oui, Nicole, d'ailleurs, j'ai une question pour vous, Nicole, parce que c'est vrai que les gestes sont extrêmement importants, mais est-ce qu'aussi la verbalisation n'est pas? C'est-à-dire que moi, mes personnages, c'est des gens qui ne se sont pas dit qu'ils s'aimaient. Ouais. Et donc, comme ils ne se sont pas dit qu'ils s'aimaient, quand ils se quittent, ils se disent, mais on aurait dû se le dire. Est-ce que du coup, on ne devrait pas passer son temps à se dire qu'on s'aime? On serait peut-être moins frustré après.
La réponse de Nicole, ce sera dans un instant.
Ah, d'accord.
Vous le faites vachement bien. Je vous rends votre micro. Je vous rends votre micro justement dans un instant. On se retrouve tout de suite en direct sur RTL.
RTL.
Ferry Flamand. RTL. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors, la question, Nicole Prieur, hein, avant qu'on accueille Annick sur cette antenne, parce qu'Annick, on lui parle d'un truc depuis 14h30, elle ne sait pas ce que c'est le syndrome du nid vide, donc ce sera intéressant. Est-ce qu'il faut verbaliser les choses?
Alors, verbaliser, j'ai envie de dire, effectivement, les personnages de Philippe Besson, je les trouvais très tendres, parce qu'ils sont pleins de pudeur, mais ils savent qu'ils s'aiment. Ils ne se le sont pas dit, mais les gestes ont parlé pour eux. Alors, est-ce qu'il faut le verbaliser? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de notre personnalité, parce que quelquefois on se dit je t'aime, mais on est insupportable ensemble, enfin je veux dire on est violent. Oui. Par contre, j'ai envie de dire, parler pour construire l'avenir, pour reconstruire le lien, oui, il y a un moment donné où il faut parler.
Donc il est des étapes, étapes dans la vie pendant lesquelles il faut parler, c'est ça que vous nous dites, pour poser un socle en fait, la parole est comme un socle sur lequel on peut ériger finalement un nouveau chapitre. Quoi.
Exactement, voilà. Écrire de nouvelles pages à notre histoire.
Très bien. Je l'ai eu, ce syndrome du nid vide incontrôlable. Cela m'a bouleversée, nous écrit Katou. C'était très difficile. On m'a arraché quelque chose de mon ventre, mais vraiment, c'était un arrachement. Il paraît que cela est sain pour les parents. Alors, en tout cas, on n'a pas trop le choix. Donc, Katou, c'est sain sûrement pour les parents, parce qu'à un moment donné, on se recentre peut-être sur nous-mêmes, ce qui est une nécessité. Et c'est peut-être aussi sain pour les enfants, parce que parfois, c'est un peu compliqué. Armelle, elle aimerait bien savoir comment faire et dire que j'ai un tanguy à la maison et que j'aimerais qu'il vole de ses propres ailes, nous écrit-elle. Qu'il fasse sa vie, qu'il rencontre la femme de sa vie, qu'il trouve le boulot de sa vie. Et c'est vrai que quelque part aussi, la prise de liberté de nos enfants, c'est le signe qu'ils n'ont plus besoin de nous, quelque part, Philippe Besson. Et donc, c'est le signe qu'on a fait le job. Et c'est le signe qu'en fait, ils sont en sécurité, quelque part. Quand ils partent, prenons-le comme...
Il faudrait le prendre comme tel, oui. Voilà. Se dire, on a accompli le devoir. C'est-à-dire que le job de parents, qui consistait justement à faire qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, eh ben, on l'a fait jusqu'au bout, et bien fait.
Voilà. Bonjour, Annick.
Bonjour, Flavie. Bonjour à tous.
Bon, alors, nous, on vous parle d'un truc, là. Vous ne connaissez pas. Mais c'est bien, moi, je trouve. Ça vous fait rire ?
Oui, ben, non, ça ne fait pas rire. Mais
moi, je trouve ça génial, votre histoire. Je pense qu'en fait, vous avez tout de suite compris, quoi. Voilà. Vous étiez content de revivre à deux.
Ah, ben oui. Et nous avons vécu tout vite, en fait.
Oui, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés en octobre 78. 3 mois après, on vivait ensemble.
Ouais.
Trois mois après, on vivait ensemble, oui. 8 mois après, on se mariait.
Ouais.
Et 9 mois après le mariage, on avait notre premier enfant.
Tagalak, boum, boum, ok,
voilà,
d'accord.
Voilà, on va vite, nous, on réfléchit fort.
Oui, mais alors attendez, 5 enfants plus tard.
5 enfants en 10 ans.
Voilà, 5 enfants en 10 ans. Une
après,
vie...
on a consacré toute notre vie à nos enfants, nous. Hein.
Mais alors justement, je n'en doute pas une seconde, mais vous saviez à un moment donné que quand il serait parti, vous alliez vous retrouver avec
Patrick. Ah bah oui, parce que tout ce que les jeunes vivent avant, maintenant ils se marient très tard, les jeunes.
Ouais.
Et on l'a vu par nos enfants, hein. Ils sortent ensemble, ils vivent ensemble et ils se marient très tard. Nous, on a fait tout le contraire, on s'est mariés très tôt. Et on s'est dit, une fois que nos enfants seront partis, ben on aura encore beaucoup de temps pour nous.
Donc ça veut dire que vous aviez formulé ça avec Patrick. Vous vous étiez dit, bon, allez, on va faire notre job de parents, mais
oui.
On sait que viendra ce temps où on sera ensemble et on profitera et presque, je dirais, on se séduira à nouveau et on refera connaissance.
Sûr,
quoi.
Oui.
Ah mais ça c'est génial, mais vous deviez être impatiente à un moment donné qu'ils s'en aillent tous, non?
Oui et non, mais bon, ils sont partis... Doucement, les grands en premier, le plus jeune est parti, il a fait ses études, donc il partait à la semaine.
Ouais,
il revenait le week-end avec, comme j'ai entendu, le linge. Et après, ben, quand il s'est mis en couple, et ben, on s'est mis sur le canapé, nous on a dit, ben, ça y est, on va s'occuper de nous.
Et c'est vrai que quand vous vous êtes retrouvés donc, après 5 enfants, voilà, parce que l'aîné a 41 ans,
oui.
Vous avez 61 ans aujourd'hui, c'est vrai que vous vous êtes retrouvés comme si vous aviez 15 ans ?
Bah, comme quand on s'est rencontrés, quoi, en gros.
Alors, et moi je dis chapeau, hein.
Et on s'est reséduit, enfin bon, on n'avait pas bien besoin de se reséduire, mais...
Ah mais c'est génial, j'adore. Non mais on a l'impression que vous avez marqué des points partout, vous voyez ce que je veux dire ?
En fait, on sait que nos enfants sont heureux. Et on sait qu'ils sont en couple avec des enfants qui sont bien dans leur vie, bien dans leur travail. Donc, nous, c'est tout bénef. Hein,
J'adore. Philippe
Besson. Non, moi, je trouve ça formidable. Cette histoire m'enchante. Mais c'est vrai que souvent, la question, c'est 30 ans après, on se dit, mais je vis finalement plus avec la personne que j'ai aimée 30 ans avant.
Mais c'est ça.
Ce pourquoi je suis allé vers lui ou vers elle il y a 30 ans, bah, c'est plus le même mouvement aujourd'hui. Parce que 30 ans ont passé, que voilà, la vie nous a roulé dessus, qu'on est des personnes différentes, puis que surtout, on a appris à se connaître. Et donc, c'est vrai que comment on fait pour revenir à l'instant originel ou alors pour réarmer le désir, c'est des vraies questions qui se posent. Parce que comment on redevient justement des époux, des amants, et comment on recommence une vie juste avec ce noyau de deux. Ça, c'est formidable et c'est un enjeu considérable. Je suis très heureux que vous y soyez parvenu. C'est, de temps en temps, ça ne se passe pas aussi bien. On sait, hélas, non. Par exemple, Nicole le confirmera, je crois, que ce syndrome du nid vide, de temps en temps, engendre des séparations parce que, précisément, quand on se retrouve l'un face à l'autre, on se dit, mais moi, je ne sais pas qui est cette personne, c'est un étranger. Donc, il ne faut surtout pas que ça soit un étranger. Il faut que ça redevienne celui ou celle qu'on a aimé. Ouais.
Mais, et c'est la raison pour laquelle je vous demandais, Annick, si vous formuliez ce projet-là pendant que vos enfants étaient là, en vous disant quand ils seront partis, on fera ci, on fera ça. C'est aussi ça le secret, Nicole Prieur. C'est pas simplement de faire des enfants, d'avoir une vie où on est consacré à eux et puis tout à coup de dire ah ouais, au fait, salut, toi, je t'ai pas vu depuis 30 ans. C'est de nourrir l'avenir.
Mais oui, et c'est ça, quand on parlait de l'avenir de tout à l'heure. Et puis j'ai envie de dire, on acceptera d'autant plus l'autonomie de nos enfants vis-à-vis de nous que nous, on est autonome vis-à-vis d'eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils mesurent bien que nous avons une vie à côté, vie de couple. Une vie de femme, une vie professionnelle aussi, et qu'on essaye d'équilibrer. Alors il y a des moments où c'est la vie de famille qui va prendre plus mais effectivement, ne pas renoncer, ne jamais, à mon sens, mais c'est pas facile, hein, mais ne jamais renoncer aux différentes palettes, aux différentes facettes qui nous constituent. Et je pense que ça, déjà, si on y arrive, c'est un, j'ai envie de dire, c'est formidable. On est vraiment une figure d'identification pour nos enfants, et on, c'est beaucoup plus important que l'autorité elle-même. Hein, je veux dire, si on arrive à se réaliser sur plein de facettes en même temps.
On se retrouve tous en direct sur RTL. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. À 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
On en était où, Philippe Besson?
On en était à se dire qu'il fallait préparer l'après, qu'il fallait imaginer sa vie.
C'était alors, ça, Nicole Prieur?
Non, attends. Et surtout, je veux rebondir sur un truc.
On
parlait de couple et comment on redevient un couple après coup. Mais il y a aussi une autre notion qu'il faut ajouter, je pense. C'est pas seulement comment on redevient épouse, c'est aussi comment on redevient femme. Parce qu'il y a quand même cette notion toute bête que les femmes ne sont pas simplement des mères. Et donc, il faut qu'elles reconquièrent une forme de liberté. Donc, il faut qu'elles aient des copines, qu'elles aient une vie associative, qu'elles prennent leurs vacances toutes seules si elles le veulent, mais il y a l'idée qu'il faut reconquérir une forme d'indépendance. Il ne faut pas non plus se rattacher à un autre lien qui serait de dire j'ai eu comme chaîne mes enfants pendant 30 ans et donc maintenant je me rattache à une autre chaîne qui est celle de mon mari. Non, on a le droit aussi d'être indépendante.
Et moi j'ai envie de dire, j'ai envie de dire qu'il faut pas attendre ce moment où tout explose. Et c'est vrai que ce qui est très important, et moi c'est vrai que quand je rencontre les jeunes mères, etc., je me force de leur dire, enfin, comment vous pouvez garder toute une part de liberté, tout un temps pour vous, même à minima, comme vous disiez, une soirée avec un copain, une copine, partager des moments, aller à la piscine, c'est un apprentissage que l'on a à faire dès que nos enfants naissent.
Annick, qu'est-ce que vous faites?
Ce que vous dites, nous on l'a fait tout au long de notre vie.
Ah voilà, exactement.
Et puis on s'est fait des petits week-ends surprises. Voilà. Enfin, on a toujours des projets, nous, dans notre vie. On a gardé notre... On sait qu'on est un homme, une femme, et on a gardé notre vie de couple, en élevant nos enfants. Hein.
Et dites-moi, aujourd'hui,
Et aujourd'hui, on a pris un grand virage parce qu'on est parti à 800 et 1000 km de nos enfants.
Waouh ! Vous êtes où ?
On est parti en Bretagne, on a déménagé, et puis ça se passe bien.
Mais vous savez quoi, je trouve que c'est génial, même en termes d'exemplarité pour les enfants, de montrer, vous êtes d'accord Nicole, d'être un exemple de liberté, parce que ça peut être lourd pour des enfants aussi de se sentir responsable de leurs parents. Et quand on a des parents qui n'ont pas besoin de nous, je pense que ça fait du bien aussi, quoi.
Et puis ils savent que de toute façon, le moindre petit souci, ils peuvent compter sur nous. Hein,
Vous voulez pas en adopter une sixième, là?
Je cherche
des parents. Nicole Prieur, c'est super en termes d'exemple.
Ah, c'est extraordinaire.
Parce qu'on parle juste des enfants qui ont besoin des parents,
Et c'est ça, j'ai envie de dire, effectivement, et ce qu'Annick nous donne à entendre, elle a eu la chance d'avoir ce couple solide, mais c'est une expérience aussi que l'on peut faire seul ou dans un couple plus malheureux. Mais c'est effectivement prendre soin dès l'enfance de nos enfants, prendre soin de notre propre autonomie. Je pense que c'est ça la richesse puis c'est notre dignité d'être humain aussi, de ne pas dépendre toujours des uns et des autres. Et plus on est autonome, plus on se construit, plus on parlait de cette confiance en soi, et plus on peut supporter ce bouleversement du moment où ils partent.
Et plus on aide nos enfants par l'exemple, à devenir eux-mêmes indépendants.
C'est la meilleure façon d'être parent finalement. Hein.
Philippe Besson.
Et puisqu'on parle des enfants, il faut aussi s'adresser à eux, c'est-à-dire que peut-être c'est à eux aussi de prendre conscience de ce qu'ils font vivre à leurs parents ou de ce que leurs parents vivent. C'est vrai que moi par exemple, je me suis rendu compte quand j'ai découvert que ma propre mère avait plongé dans une forme de mélancolie et presque de dépression pendant des mois et des mois, je me suis senti coupable, d'abord parce que j'avais rien vu, parce que j'étais loin et que j'avais pas vu, j'étais coupable de rien, senti coupable. Et surtout, je me suis senti égoïste, surtout, je me suis dit, finalement, c'était mon propre affranchissement qui m'intéressait, c'était ma propre liberté.
Mais moi, je trouve ça bien.
Oui, mais il y a un moment, on a aussi le droit de renvoyer. Voyez quand même l'ascenseur. Les parents ont tout fait pour les enfants. Les enfants, à un moment, peuvent se rendre compte qu'ils ont le droit Non, mais c'est pas une charge. C'est l'idée, c'est de l'amour. C'est l'idée de renvoyer de l'amour et de dire je fais attention à ce qui t'arrive à toi aussi. C'est pas à sens unique quand même. Les enfants ont le droit de se dire ma mère ou mon père souffre et peut-être que j'ai un rôle à jouer pour que ça soit un peu plus allégé. Un peu allégé.
D'accord. Okay.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que ça rejoint tout à fait le livre que je suis en train de finir. sur effectivement, quand on grandit, on est forcément déloyal ou on est perçu comme déloyal, mais il faut assumer cela en reconnaissant la souffrance que l'on fait aux autres. Donc, c'est tout à fait ce que je vais travailler dans quelques mois.
Eh ben, vous nous tiendrez au courant, Nicole Prière, mais ce sont des déloyautés, moi, je pense, nécessaires.
Exactement.
Voilà. Mais vraiment et nécessaire. Moi, je dis à mes enfants, quand j'ai mal et tout, je leur dis, bon, écoute, oui, c'est pas facile, mais bon, c'est ton rôle, il faut que tu prennes ta vie en main, quoi. Vous voyez, ça me semble...
Vous allez rire, Flavie, quand je vous donnerai le titre de ce futur bouquin.
Bah, j'ai hâte, là, vous avez un petit rire un peu... Ah ouais, très bien, j'ai hâte.
Ah, parce qu'on va se rejoindre, je pense.
Nicole qui me traballe. Merci beaucoup, Nicole, en tout cas. En attendant, on peut lire
Avec
Avoir confiance
d'amitié.
En soi, évidemment, je sais, aux
bien
éditions
sûr.
First. Je vous embrasse, Nicole Prière. Annick, vous pouvez aller avec... Alors, vous pourrez emmener, je sais pas, qui vous voulez, des potes, parce que vous venez de remporter 4 places de cinéma pour aller voir Wendy, l'adaptation des aventures de Peter Pan. C'est un film en partenariat avec RTL. Vous avez 4 places, donc vous y allez avec votre mari,
merci.
Patrick, et puis après vous choisissez ceux qui vous accompagnent, d'accord ?
D'accord,
je vous embrasse, à bientôt Annick.
Et bien Kenavo, comme on dit en Bretagne.
Et bien Kenavo, salut Annick, au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup Philippe Besson, j'étais ravie de vous recevoir.
Merci à vous.
Et je conseille votre livre, Le Dernier Enfant, c'est aux éditions Julliard, et voilà, c'est écrit par vous, donc c'est forcément très beau. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain dès 14h30 en direct sur cette antenne. Bonne fin de journée à tous, prenez soin de vous, je vous embrasse.
RTL. On est fait pour s'entendre.